écoute Dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Frédéric Join.
Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF. Ce soir, le thème de notre émission est le suivant. Avez-vous confiance en la Providence? Avez-vous confiance en la Providence? Avec ce soir en direct dans notre studio, le père Paul Dollier. Bonsoir mon père.
Bonsoir Frédéric.
Curé de Saint-Laurent dans le 10e arrondissement de Paris. Alors pour nos auditeurs de Paris, c'est peut-être clair. Pour ceux de la province, on peut dire que Saint-Laurent est près de quoi? De la gare de l'Est, de la gare,
gare de l'Est, gare du Nord.
Entre les deux. Entre les deux, mon cœur balance. Pour nous rejoindre, vous pouvez composer le 01 56 56 44 00, 01 56 56 44 00, ou bien nous écrire à auditeurs@radionotredame.com. Bienvenue à ceux qui suivent notre émission sur notre chaîne YouTube et peuvent réagir en direct. Bienvenue à nos amis francophones qui nous écoutent à travers le monde et aussi dans les îles. On oublie un peu les îles, on peut faire coucou à Tahiti, à La Réunion, aux Antilles. Bienvenue à ceux qui connaissent ou découvrent ou redécouvrent cette émission où décidément on est si bien. La Providence, étymologiquement, c'est voir avant. Pro, en avant, videre, voir. Vous vous souvenez de la phrase de Jules César, Veni, vidi, vici, mais ce n'est pas faire un acte de voyance au sens de la divination, de la magie. S'abandonner à la Providence, c'est placer sa confiance en Dieu. Savoir que tout est dans la main de Dieu. Alors, cela pose une difficulté, un problème. Tout serait-il écrit à l'avance? Et si c'est le cas, serions-nous libres? Et la liberté est au cœur de notre foi. Alors, tournons-nous vers notre invité, le Père, qui va avec nous approfondir la question du jour, le Père Paul. Alors, Père Paul, on va d'abord commencer par la question zéro. Avez-vous confiance, c'est un peu difficile, hein, avez-vous confiance en la Providence? J'espère que vous allez dire oui, sinon je suis très embêté pour la suite. Alors, dites-nous, Père Paul.
Ben, j'ai confiance, Frédéric, bien sûr.
Ah, je suis rassuré.
J'aime bien dire, des fois je provoque mes paroissiens, je leur dis, vous savez, il y a deux types de chrétiens. Il y a ceux qui pensent que Dieu existe, et ceux qui pensent que Dieu les guide.
Ah.
Vous voyez?
Alors expliquez-nous la nuance.
Parce que vous pouvez très bien penser que Dieu existe, ben il existe, il a créé le monde, mais enfin une fois qu'il l'a créé, il est parti.
Il est sur son... pour nous.
Voilà. Ouais. Et c'est pas pareil de penser que Dieu nous guide, c'est-à-dire que il est là à nos côtés, il y a une histoire qui va s'écrire, il nous accompagne, il y a des événements, il y a voilà. Ce qui veut dire que je dois être attentif aux paroles de Dieu, au sens large,
ouais.
Que Dieu se sert de ce qu'il veut pour me conduire, pour que je puisse correspondre à ma vocation.
Donc c'est croire que Dieu peut encore agir aujourd'hui.
Exactement. Ouais.
Et que ça n'est pas un personnage lointain, c'est pas le dieu grec, c'est pas l'ordonnateur du cosmos.
Voilà, le grand horloger qui repart. Non, il est là. Il nous maintient dans l'existence à chaque instant.
Ouais. Ça, c'est important de le dire. Alors, avoir confiance en la Providence est une chose, mais qu'est-ce que la Providence? Si on se réfère au catéchisme de l'Église catholique, on parle de disposition que Dieu a envers l'homme, envers la création, de la conduite qu'il réalise dans la sagesse et dans l'amour pour toutes les créatures. Ça, on voit à peu près encore vers leur fin ultime. Alors ça poserait la question de savoir quelle est la fin ultime. Est-ce que c'est la mort? Est-ce que la mort est comprise comme ce face-à-face avec Dieu? Est-ce que tout l'effort de Dieu, c'est de nous conduire ou de nous rappeler à lui tout au long de notre vie, c'est-à-dire se manifester? Alors, on peut quand même dire que Dieu est assez discret quand même, non? Alors, vous allez peut-être dire pas du tout, pas discret.
Bah, ça dépend chez qui. Enfin, je veux dire, il y a dans la vie des saints... vous avez des saints qui voyaient Dieu à l'œuvre, un saint Vincent Ferrier. Bon, c'est pas très très proche, mais
ouais.
Un saint Vincent Ferrier, parce que j'ai été pendant longtemps à Vannes prêtre.
Ouais.
Enfin, c'est quelqu'un qui faisait des miracles à l'appel.
D'accord. Oui, alors lui, il avait pour le coup, il savait que l'action de Dieu qui passait à travers lui. Il n'avait pas besoin de sous-texte,
ouais.
Mais ça reste quand même assez exceptionnel.
Oui. Alors après, il y a tout le. Enfin, je pense au renouveau charismatique, mais en ce moment, en particulier dans l'Église, il y a tout un courant autour de la guérison, qui est assez intéressant.
Alors il faut expliquer pour nos auditeurs. Bon, alors déjà, le renouveau charismatique, on peut dire que c'est peut-être l'influence de nos frères protestants, qui aux États-Unis ont développé un mouvement qui ressemble un peu à celui des Actes des Apôtres. Finalement, on prie, on guérit, on croit que Dieu existe et qu'il agit.
Exactement.
Ce qu'on avait peut-être un peu perdu de vue pour des raisons rationalisantes. dans l'Église, disons, européenne, peut-être. Bon. On peut dire ça, en résumé.
Voilà, enfin, il y a plein de, peut avoir plein de causes,
ouais,
plein
de causes.
Assez complexe.
Mais... oui. Et puis, ce courant nous est revenu. L'Église s'est engagée dans ce courant et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de communautés dites nouvelles, qui sont pas forcément nouvelles maintenant,
oui.
Qui prennent un peu d'âge et où on prie et où on pense que Dieu agit.
Exactement.
Par son esprit.
Voilà.
Alors, est-ce que, moi, ça me semble toujours un peu étonnant que ce soit des communautés puisque toute l'Église devrait partager cette vocation.
Oui, enfin, il y a des communautés, il y a aussi des personnes,
Charismes.
Oui, qui ont des charismes. Alors je pense à des écoles, vous avez à Paris par exemple, c'est pas du tout une communauté.
Ouais.
J'aime beaucoup ce que fait Étienne Grenet, qui est au pôle mission, qui est un prêtre de Paris tout à fait classique,
ouais.
Docteur en théologie.
Oh là, donc, sérieux.
C'est un
bon élève. Ouais.
Et qui vient de sortir un livre au mois de mai, juin, qui s'appelle Dieu agit, où il raconte 40 histoires. Où en fait, il a été à l'écoute de l'action de Dieu. Alors en fait, il sent dans son cœur que faut peut-être aller dans la rue, puis voir, tiens, j'ai une sorte de distraction où je vois quelqu'un avec un pull rouge et je sens que je dois aller dans la rue, et puis je vois quelqu'un avec un pull rouge dans ma distraction. Et comme par hasard, dans la rue, il y a en effet quelqu'un avec un pull rouge. Alors je m'approche et puis je lui demande est-ce que vous avez besoin de quelque chose. Alors c'est ça qu'il raconte. Et ce qui est très beau, c'est qu'il raconte en fait comment il se laisse inspirer.
Voilà. Est-ce que ça c'est un charisme ou est-ce que c'est donné à tout le monde et que les gens ont plus ou moins le cœur ouvert à ce genre de...
Moi, je pense que c'est quand même plutôt donné à beaucoup de gens, beaucoup plus
qu'on ne croit.
C'est ce que lui propose. Hein. Il fait une école à Paris qui s'appelle l'école de vie dans l'esprit. Il y a d'autres écoles, hein. Je pense à Encounter Ministries, qui est une autre école. Vous avez différentes écoles maintenant, où des gens qui appartiennent à aucune communauté disent, moi j'ai envie de vous m'ouvrir au charisme. Le Seigneur veut, accompagner sa parole d'actes de puissance. Pourquoi Jésus fait des actes de puissance? Pour authentifier sa parole. Et donc les gens sont saisis quand il y a quelqu'un qui guérit, quand il y a tel ou tel acte, et c'est pas forcément réservé simplement aux premiers apôtres.
Oui.
Donc aujourd'hui,
alors qu'on avait tendance à dire les charismes de guérison qu'on peut lire dans les actes, ça concerne une époque où on avait ces charismes, on les a plus.
Voilà.
Là, on disait ça à une époque, on les a plus, donc c'est historique maintenant.
Voilà. Alors c'est pas tout à fait le sujet de la providence
non.
ce soir parce
non,
que
non.
Là c'est la guérison, mais
oui.
mais de se dire que tiens en fait Dieu montre voyez régulièrement en fait sa présence ou alors ça peut être à travers ses écoles je pense mais ça peut être des figures il y a un saint François d'Assise qui rappelle la nécessaire pauvreté qui rappelle que Dieu est présent à travers cette figure un Carlo Acutis qui a été canonisé
récemment mort à 15 ans
avec des guérisons pas possibles quand même parce qu'il y a quand même deux miracles pour qu'il soit canonisé
oui c'est ça dont un miracle eucharistique il me semble.
Je sais pas
Je crois.
En tout cas, en tout cas passionné par l'Eucharistie, passionné par les miracles eucharistiques, et qui montre en fait comment une âme se laisse traverser par Dieu. Et alors, c'est pas forcément des choses extraordinaires. Hein. Carlo Acutis, c'est des choses. Il y a des petites choses extraordinaires. Il a quand même vu en songe son grand-père qui était au purgatoire, qui lui demande de l'aide. Bon, donc il y a des petites choses.
Oui, il était doué, puis il était attiré par le chapelet. Il n'avait pas 5 ans, donc il y a des choses. Les parents étaient étonnés. Bon, qu'est-ce que c'est? Mais ça, ce sont des charismes.
Ouais.
Alors, la providence est donc l'action de Dieu dans nos vies, on pourrait dire ça. Pourquoi on a ce côté providentiel? Pourquoi on parle toujours de choses qui ont lieu un peu en avance? On pourrait dire, Dieu se manifeste dans ma vie. Mais il y a une dimension de choses qu'on voit avant qu'elles n'arrivent. Il y a toujours un peu cette dimension, déjà dans le mot, peut-être, voire avant. Quand on dit, par exemple, j'ai pensé dans ma rêverie à quelqu'un et je me sens guidé, je sors vers l'extérieur et ce quelqu'un arrive. Il y a toujours un peu une dimension qui nous lie un peu différemment au temps. Alors qu'on pourrait dire que la providence est finalement la présence de Dieu. J'ai l'impression qu'il est là et puis je fais ma vie en étant ouvert aux autres, par exemple. Est-ce que c'est providentiel aussi?
J'ai envie de dire que le voir avant, à mon avis, c'est plutôt un miroir. C'est-à-dire que c'est après coup, je comprends ce qui m'est arrivé à ce moment-là.
C'est presque une relecture.
Oui, c'est ça, voilà. En fait, l'action de Dieu, c'est pas facile pour dire à quelqu'un, en fait, tu sais, Dieu te rejoint dans ta vie, tu as une épreuve.
Mm-hmm.
En fait, tu vois, eh bien, Dieu veut te dire ceci, Dieu veut te dire cela.
Ça, c'est compliqué.
Mais non, c'est pas à dire, vous voyez. C'est pas à dire dans le sens, seule la personne comprend le signe. Seule la personne comprend cette épreuve, va donner un sens. Mais vous voyez, auprès d'un malade, je ne me permets jamais de dire, écoutez, oui. Dieu vous appelle au détachement, Dieu vous appelle à...
Vous avez un cancer, c'est très bien, c'est Dieu qui fait signe de grâce pour vous dans votre vie.
Voilà, non.
Ça passe pas très bien, je pense.
Le signe, c'est toujours important, l'intervention de Dieu, elle est toujours reconnue par la personne. Ce qui veut dire, ce qui est un signe pour moi ne l'est pas forcément pour toi.
Oui.
Vous voyez,
alors c'est un peu personnalisé. Alors.
Exactement. Hein. Enfin, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est-à-dire que la foi, si je schématise, la foi, c'est des lunettes.
Oui. C'est-à-dire... Alors, il faut que vous m'aidiez, là, mon père, parce que alors, si la foi, ce sont des lunettes, alors moi qui n'en porte pas, je vais être embêté. Alors, la foi, ce sont des lunettes, et donc elles sont réglées sur une vue particulière.
Ben, ça veut dire que des lunettes, ça veut dire que moi, par exemple, alors je prends quelque chose de très, très théologique, mais l'Eucharistie, vous voyez, l'hostie. Moi, avec ma foi, mes lunettes, je dis ce qui est dans le pain, d'ailleurs c'est pas ce qui est dans le pain, je dis ce pain n'est plus du pain, c'est le corps de Jésus.
Là, c'est les yeux de la foi.
Voilà, j'ai des lunettes, c'est-à-dire que toi, quelqu'un d'autre dira, ben non, quand je vois un ostensoir, je vois du pain, je vois pas du tout le Christ. Tu n'as pas les lunettes de la foi. Hein.
Ouais, et d'autres diront, je vois quelque chose à partager.
Voilà, on verra. Vous voyez, donc... Oui. Donc la foi, c'est le don de lunettes qui nous permettent de voir Dieu à l'œuvre dans la vie, de voir dans la parole de Dieu une parole vivante, de voir dans la réconciliation entre deux personnes, eh bien, une œuvre divine.
Alors, d'une certaine manière, la providence est quand même liée très fortement à l'Esprit Saint, là, à cette compréhension qu'on peut avoir de la relation entre Dieu et nous, et puis... la compréhension qu'on peut avoir de la relation avec les autres. C'est-à-dire que si j'ai les bonnes lunettes, je vais peut-être pas me comporter avec les autres de la même manière que si je les ai pas. Ou si elles ne sont pas adaptées à ma vue.
Alors, je vais me comporter avec les autres...
Différemment.
C'est-à-dire que je vais repérer comment Dieu me conduit, ce que Dieu veut me dire, en fait, comment je... C'est toujours la question de l'histoire, la question de la vocation, la question de qu'est-ce que je dois faire, la question du discernement.
Il faut discerner, donc.
Voilà. Mais vous avez des gens qui n'ont pas la foi, qui sont très bons avec les autres. Il n'y a pas besoin d'avoir la foi pour être bon avec les personnes. Mais celui qui a la foi, il va entrer dans un discernement. Et ce discernement va être cette écoute de Dieu à travers son vécu.
Est-ce que la fréquentation, par exemple, régulière des sacrements, de la messe du dimanche, de la réconciliation, et puis même les sacrements d'initiation chrétienne au départ de sa vie, est-ce que ça ne nous fait pas entrer dans le mystère de Dieu, c'est-à-dire la sensation de sa présence, qui n'est pas forcément sensible, mais en tout cas, qui peut être purement intellectuelle, mais en tout cas, une vie comme un compagnonnage commencer à comprendre ce que Dieu veut de nous et puis reconnaître sa griffe dans les événements. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de progression dans la vie spirituelle?
Après, c'est tous les éléments. Vous parlez des sacrements. Les sacrements, ça nourrit. Enfin, le sacrement principal, c'est l'Eucharistie.
Ça nourrit au sens propre.
Donc, ça nourrit au sens propre. Hein, je nais par le baptême et je grandis. Je nourris ma vie par l'Eucharistie. Mais c'est toute la vie, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Quelqu'un qui est proche de la parole de Dieu, il comprend comment Dieu conduit un peuple. Et si Dieu a conduit le peuple de cette manière-là, il va me conduire un peu de la même manière. Enfin,
est-ce qu'on peut résister un peu à la providence, à cette parole? Est-ce que Dieu peut nous envoyer sur des chemins qu'on n'a pas envie de suivre? Et contrairement à Jésus, on ne dit pas forcément oui. Mais alors, on sait que à ce moment-là, on refuse quelque part le projet de Dieu pour nous.
Exactement.
Est-ce que ça peut arriver?
Ah ben, ça arrive. Il y a même un livre biblique qui en parle. Il s'appelle le livre de Jonas.
Ah ben Jonas, il est très, c'est-à-dire très cash. Il est très, très marqué par ce refus. Et il l'exprime en plus.
Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est conduit par la providence. Enfin, d'abord par la parole de Dieu explicite.
Ouais.
Comme Dieu n'arrive pas, enfin l'autre, il est sourd. Hein.
Ouais.
Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait quand on est sourd? Il parle à travers des personnes ou des événements. Et donc avec Jonas, il va parler à travers des marins qui vont lui rappeler la parole de Dieu. Hein. Et comme il est sourd à travers les marins, il va parler à travers une baleine, à travers la tempête, ouais, à travers un ricin, avec ouais, des objets, en espérant...
Il obéit quand même. Hein,
hein, pardon?
Au bout d'un moment, Jonas obéit.
Alors il obéit avec son corps, c'est pas sûr qu'il obéit vraiment avec son cœur.
Ça, ouais, c'est... Il y va quand même, hein, mais c'est difficile.
Voilà.
Alors est-ce qu'on est un peu comme Jonas, nous? Est-ce que...
Bon. Ah ben, Frédéric, peut-être vous, ça c'est possible, ah, je ne vous connais pas assez.
Pas, non, pas. Moi, je l'obéis toujours, je suis assez docile. Mais pour d'autres, disons, est-ce qu'il nous arrive de refuser? J'ai l'impression qu'on ne peut pas vraiment refuser, mais est-ce qu'il arrive qu'on cherche à procrastiner, peut-être, à dire oui, je vais y aller, mais bon.
Ah ben, c'est un peu le drame du péché. Hein. Le péché, c'est savoir ce qu'est le bien et ne pas le faire. Ce oui, qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut savoir ce qu'est le bien... Et ne pas le faire. Ça s'appelle le péché. Et le refus de cet appel de Dieu, le refus de l'accompagnement de Dieu, de la providence, ben, nous entraîne, ouais, à cette résistance. Avec des fruits qui l'accompagnent. La tristesse, oui, le remords.
La dégringolade intérieure.
Ouais, c'est l'inverse des fruits de l'esprit. Si vous voulez, en Galates 5, vous avez les fruits de l'esprit.
Ouais.
Et juste avant, vous avez l'inverse des fruits de ouais, l'esprit. La division,
la rancune,
l'inquiétude,
la colère,
etc. Voilà.
Le péché,
ouais,
ouais, la gloutonnerie.
Ouais. Voilà.
Que sais-je encore? Que sais-je encore? Saint Paul était très fort pour repérer les caractères antithétiques des grâces qu'il énonçait. Alors, on va écouter non pas Joseph Haydn, mais Jaden. Hein, il ne faut pas vous tromper. Et c'est une mélodie légèrement plus rythmique, plus contemporaine. Jaden, ô Jésus.
Jésus-Christ, je déambulais dans les ténèbres. Je ne voyais pas ta lumière, comme bloqué dans mon enfer. Yeah. Oh Jésus-Christ, à la merci des vents contraires, le cœur au fond de la citerne, je criais pour qu'on me libère. Yeah. Et même si je ne te connaissais pas, tu m'écoutais. Même si je ne te voyais pas, tu m'as aimé. Tu m'as tendu la main et tu m'as libéré. Et même si je tombais, tu me relogeais. J'ai lutté l'année de départ, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de te rendre grâce, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de croire, mon Dieu. Toute ma vie, tu auras la première place. Ouais, oh Jésus. J'ai lutté l'année de départ, mon Dieu. Je ne cesserai de te rendre grâce, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de croire, mon Dieu. Oh Jésus-Christ, tu as réécrit mon histoire. Papa, je te donne les clés de ma vie. J'avance et j'ai perdu le contrôle. Oh, je ne sais plus qui je suis, où je vais. Oh, mais tu me dis de ne pas m'inquiéter, non. Seigneur, tu as des plans parfaits pour moi. Je garde le regard fixé sur toi. Tu m'as donné bien plus que ce que j'en espérais. J'ai confiance en toi, je peux avancer. Même si je ne te connaissais pas, tu m'écoutais. Même si je ne te voyais pas, tu m'as aimé. Tu m'as tendu la main et tu m'as libéré. Et même si je tombais, tu me relogeais. J'ai lutté l'année de départ, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de te rendre grâce, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de croire, mon Dieu. Toute ma vie, tu première place, ouais, oh Jésus. J'ai lutté l'année de départ, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de te rendre grâce, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de croire, mon Dieu. Oh Jésus-Christ, tu as réécrit mon histoire.
Jaden, ô Jésus, rythme plus contemporain que Joseph Haydn, mais ça vous permettra de le retenir et puis peut-être d'aller acheter son disque ou de l'écouter sur différentes plateformes. Ô Jésus, Jaden. Voilà. Est-ce que vous écoutez, mon père, les musiques contemporaines de nos jeunes qui parlent de Jésus, entre autres?
Pas beaucoup.
Pas beaucoup.
Moi, je suis désolé, mais bon.
Ben non, ça viendra. C'est pour ça qu'on est à la radio, c'est pour découvrir des choses. Alors, nous avons parlé de la Providence, de ce Dieu qui agit discrètement, mais par des voies qui lui sont propres, et qui nous taille un peu, qui nous émonde, mais de façon structurée, un peu du sur-mesure, comme de la haute couture. On peut reconnaître l'action de Dieu en nous-mêmes, bien sûr, dans nos relations avec les autres. Est-ce que Dieu a vraiment besoin de nous ? Si Dieu conduit toutes choses avec amour et sagesse, est-ce qu'il a vraiment besoin de nous pour être ce qu'il est ? Et on pourrait même se demander pourquoi il nous aime tant, alors que souvent on se demande si on est finalement très aimable, on a déjà bien des difficultés à s'aimer soi-même. Alors on se dit, quel est ce Dieu qui cherche à nous attirer à lui, à nous aimer ? Il est incroyable, hein, non ?
C'est vrai. Alors, en fait, il y a deux choses dans votre propos. C'est la question de est-ce que Dieu a besoin de nous et la question de l'amour. Alors, Dieu nous aime, évidemment, à l'infini, parce que, enfin, s'il l'a montré sur la croix, hein, c'est le message de la croix, hein, ça veut dire il n'y a pas de limite à mon amour. Bon, on a du mal à concevoir, mais... Alors après, la question du besoin...
Alors, je vous laisse réfléchir une minute, mon frère, sur la question du besoin, car Fabienne, habitant à Vannes, nous a appelé, malheureusement elle a raccroché, on n'a pas encore son numéro. Alors il faut absolument que Fabienne, qui vit à Vannes, en Bretagne, on en parlait tout à l'heure, puisse nous rappeler pour que nous puissions effectivement recevoir dans nos studios les embruns et les alizés qui conviennent à cette région de France magnifique qu'est la Bretagne. Voilà, Fabienne, n'hésitez pas à nous rappeler. Alors, mon père.
Alors, sur le besoin, oui, c'est-à-dire que la question, c'est toujours de dire, mais si Dieu conduit toute chose, qu'est-ce que je fais ? Hein, il n'a pas besoin de moi, en fait. Alors, c'est là où on imagine souvent notre rapport à Dieu comme la place de parking, c'est-à-dire,
bon.
Après les lunettes, c'est la place de parking.
C'est Auchan, par exemple.
Ben, c'est-à-dire que si bon, je m'y mets, oui. Tu peux pas t'y mettre.
Oui. Hein,
si Dieu agit, je ne peux pas agir.
Ah voilà. Oui, d'accord. C'est soit l'un ou l'autre. C'est voilà. Un peu dichotomique.
Voilà. Alors, pas du tout. C'est totalement Dieu qui agit et totalement moi qui agis.
Alors, expliquez-nous ça. Est-ce qu'il faut lâcher prise, par exemple? Les gens disent, il faut lâcher prise, il faut s'arrêter sous l'arbre. Il y avait cette mode à un moment donné. Mmh. On s'arrête et puis finalement, Dieu arrive. Il fait ce qu'il a à faire et nous, on obéit. Et puis, d'une certaine manière, on devient passif. Mmh. Et ou alors, on est très actif et donc Dieu peut pas rentrer parce que c'est nous qui décidons de tout. Et c'est fini. Alors, non. Est-ce qu'il n'y a pas une articulation ?
Il y a l'articulation, c'est-à-dire que Dieu nous inspire mm-hmm. ce qu'on doit faire, mais il faut le faire, il faut agir.
Hein, c'est... Alors, il y a peut-être aussi du discernement, par exemple, si Dieu m'inspire d'être, je ne sais pas moi, un comparse de M. Dembélé au PSG, là, peut-être je me trompe. Peut-être que c'est trop tard.
Il va falloir discerner.
Là, il faut discerner sérieusement.
Exactement, oui. Alors, j'aime bien ce que disait Jean-Paul II, parce que je me suis amené quelques petites notes.
Ah,
en 80,
oui.
S'adressant aux habitants d'un bidonville à Rio.
Oui.
Et il leur disait, vous devez lutter pour la vie, tout faire pour améliorer les conditions dans lesquelles vous vivez. C'est un devoir sacré, parce que telle est aussi la volonté de Dieu. Ne dites pas que c'est la volonté de Dieu que vous demeuriez dans une situation de pauvreté, de maladie. Ne dites pas c'est Dieu qui le veut. Soyez toujours les premiers à améliorer votre vie sous tous ses aspects.
Alors là, c'est un petit côté surprenant parce qu'on a appris dans son enfance que les pauvres c'était l'élite, qu'il fallait souffrir, qu'il fallait pas avoir mal, mais si on avait mal, il fallait quand même accepter la douleur et la pauvreté. Et alors là, le pape dirait... non pas comme Guizot, enrichissez-vous, mais si vous avez des grâces et que effectivement vous gagnez de l'argent, c'est pas forcément un mal.
Ah ben non, mais faut au contraire s'enrichir. Hein.
Ah bon ? Ah ben personne me l'a jamais dit, alors c'est pour ça. je vais changer d'antenne. Non, je plaisante. Alors donc effectivement, il faut s'enrichir.
C'était l'évangile de dimanche dernier.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'avec l'argent, tu fais beaucoup de bien.
Ah ben c'est ça. Donc c'est pas tellement le fait d'avoir de l'argent ou pas, c'est ce qu'on en fait.
Voilà, ce qu'on en fait. Le problème, faut s'enrichir. Le problème, faut pas rester riche.
Oui, c'est ça. Il faut gagner son argent pour leur distribuer.
Pour leur distribuer, exactement.
Ah, c'est comme la France, quoi, c'est ça. Sauf qu'on distribue l'argent qu'on a plus. Enfin, ça, c'est autre chose. Alors, donc, gagner de l'argent, on le distribue.
Voilà.
En fait, faut être libre.
Voilà. En fait, c'est-à-dire que, c'est exactement comme la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est 100% divine et 100% humaine.
Oui.
nos actions sont 100% divines. Hein, je ne sais plus quel théologien disait, vous savez, un saint, c'est quelqu'un qui est perméable à la grâce.
Voilà,
qui,
oui.
qui se laisse traverser. Vivre, voilà. Ouais. Et donc,
le transparent de Dieu, c'était un des titres de biographie consacrée à Padre Pio. On pense à lui parce qu'hier on en a beaucoup parlé.
Ben voilà,
le transparent de Dieu, celui qui se laisse transverser.
Et donc, en général, si je me laisse vraiment traverser par Dieu, j'entre dans l'action. Hein. Comme dit Saint Jacques, hein, si tu as la foi que tu n'as pas les œuvres, ta foi elle est morte. Donc, le chrétien est un homme d'action.
Voilà, donc il ne faut pas avoir peur d'agir. Mais il faut discerner avant d'agir. Alors, est-ce qu'on peut se dire, par exemple, bah, écoute, moi, Seigneur, je ne sais pas ce que je dois faire. Dis-moi ce que je dois faire, j'irai. Voilà. Est-ce que c'est une forme de prière?
Ben c'est, pourquoi pas, tout à fait.
Pourquoi pas, ça peut être le cas. Est-ce qu'on a beaucoup de chrétiens qui se disent, je parle aussi des plus jeunes, je sais pas, au sortir de du lycée ou de l'université ou des grandes écoles, est-ce que ou de sa formation professionnelle, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut pour moi? Si je suis un bon élève, je vais faire des études supérieures et puis je vais peut-être éventuellement choisir le commerce à la mode et gagner de l'argent. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est ça que Dieu veut pour moi? Est-ce que c'est pas un peu stéréotypé? Comment réfléchir à cette question?
Après, il y a un discernement. Faut se dire, enfin, faut se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Moi, je pense qu'un jeune, au début de sa vie adulte, c'est vraiment la question. C'est qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser? Le pape François, il avait cette expression. Il disait aux jeunes à Rio, il disait posez-vous la question, quelle est l'empreinte que vous voulez laisser en ce monde?
Quelle est l'empreinte que je veux laisser?
Ouais, voilà. Alors après, quand vous dites bah tiens, suffit simplement de poser la question à Dieu, qu'est-ce que tu veux? Et puis parle-moi. Dieu, il va dire bouge-toi.
Ah oui, carrément.
Il va dire bouge-toi, ouais. et c'est en marchant que tu auras la lumière, hein.
D'accord. Donc il faut cheminer.
Il faut cheminer.
C'est
hein,
pour ça qu'il y a autant de chemins dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Tout le monde marche tout le temps.
Exactement.
En fait,
hein. C'est venez à ma suite et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Hein, donc c'est vous allez voir, vous allez marcher derrière moi, puis derrière moi on voit pas bien parce que les épaules de Jésus elles sont assez larges, tout
les
ça.
Carré d'épaules.
Bon, les carrés d'épaules, on voit dans le Saint-Suaire là, ça fort.
Ouais.
Mais faites-moi confiance et puis on va traverser la mer, il y aura des tempêtes, tout ça. Mais au fur et à mesure, hein, comme dit le psaume, hein, ta parole est une lumière sur mes pas. Au fur et à mesure que je pose des pas, je vais voir la lumière. Il y a des gens dans ma paroisse qui disent « Ah, mon père, qu'est-ce que je dois faire ?» etc. Ben, je leur dis « Faites !»
Ah oui.
Ben, faites quelque chose, faites du ménage, faites un groupe de partage, faites quelque chose. Puis vous verrez que vous n'avez pas de goût, vous verrez qu'au contraire vous êtes fait pour ça. Lancez-vous, risquez.
D'accord, il faut essayer et puis, ouais. Et puis voir. Et puis le Seigneur ne nous laisse pas tomber, c'est ça aussi la providence.
Il nous accompagne, voilà.
Si on n'est pas doué, ça veut pas dire qu'il faut...
On dit toujours, dans le coaching, on le dit souvent, il vaut mieux prendre des risques, faire quelque chose plutôt que ne rien faire.
Oui, faire quelque chose, c'est toujours avancer, finalement. C'est un peu comme à bicyclette, si on n'avance plus, ben, on tombe. Voilà. Donc il faut quand même continuer
et
à avancer.
Et dans ce pas qui est un pas de foi, la lumière est donnée, le Seigneur nous guide. Hein. Le GPS, il se met en marche quand on démarre la voiture, vous voyez, parce que sinon,
j'ai connu un prêtre, il se laissait guider par Dieu, il retrouvait son chemin, il avait aucun sens à l'orientation, et il retrouvait son chemin grâce à l'esprit. Il n'avait pas de GPS encore.
Ouais,
c'est le Seigneur qui le guidait. Bon, voilà, ça c'est une expérience concrète. Nous avons Catherine qui nous appelle de Toulouse. Catherine.
Oui, allô,
oui.
Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Catherine.
Paul.
Et bonsoir Catherine.
À tous les auditrices et auditeurs.
Oui.
Oui, moi j'avais la question par rapport à la providence. Si on voit toujours une intervention divine ou le hasard?
Ah ah, le hasard. Alors Einstein disait qu'il n'y avait pas de hasard et que c'était la face cachée de Dieu, le hasard.
Parce que, si vous voulez, quand on est croyant, on va voir l'intervention de Dieu... ou d'un son ange gardien, ou de la Sainte Vierge, enfin, ou les saints.
Mm-hmm.
quand on n'est pas croyant,
oui.
Et il y a beaucoup de gens comme ça, hein, oui. Dans notre famille, autour de nous, nos amis, ils vont voir un hasard.
Oui.
C'est, par exemple, ils tombent en panne, oh ben tiens, j'ai un ami par hasard qui passait par là, qui m'a dépanné.
Oui.
Ou pour n'importe autre chose, ils vont voir le hasard pour,
oui.
pour au niveau de la santé ou de l'argent, par
oui.
exemple, financièrement.
Si je gagne au loto, par exemple, 100 millions, si j'ai la foi, je dis c'est Dieu, et si je voilà, si j'ai pas la foi, je dis c'est le hasard.
Oui, et oui. Où je finis pas mes fins de mois, et puis tiens, d'un coup, j'ai eu un remboursement ou quelque chose qui me tombait à point.
Oui.
Et par hasard.
Alors Catherine, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quelle question vous voulez poser? Est-ce que Dieu est présent dans toute chose? Est-ce que c'est à certains moments? Est-ce que de temps en temps il n'est pas présent et donc c'est le fruit du hasard? Et où est-ce qu'il est présent même dans ce qu'on pourrait nommer le hasard quand on n'a pas tellement la foi? C'est ça la question?
Ben, moi je me dis, est-ce que Dieu connaît tout? C'est tout de nous?
Oui.
Et a un plan tout le temps pour nous, en permanence? Et que il envoie ses messagers ou je sais pas
des anges parfois
oui l'ange gardien ou oui. des anges pour nous soulager nous aider voilà et comment oui voilà est-ce que Dieu a un plan, en fait, en permanence.
Est-ce que Dieu a un plan pour nous en permanence? Est-ce qu'il faut rester
oui.
dans le schéma
je crois, oui, tout à fait.
Et tout ce qui va nous arriver.
Bah, on va laisser le Père répondre.
Bah, après, le Père, je ne sais pas si c'est la science totale, mais...
Sûrement, grâce à la Providence et l'Esprit.
Mais Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Il a un projet, il nous a élus, ça c'est le début de l'épître aux Éphésiens, dès avant la fondation du monde, voilà, bon. Alors après, ce projet, chez certains, il y a même un appel, vous voyez, une vocation, mais il n'y a pas que la vocation religieuse, il y a des tas de vocations, enfin. Donc, la question pour moi, c'est, est-ce que j'entends, vous voyez, cet appel de Dieu? Et si je n'y réponds pas, c'est un peu comme un GPS. C'est-à-dire que le GPS, vous trompez de route et Dieu se réadapte.
Ouais, c'est ça.
En fait, il se réadapte. Hein. Le bon larron, c'est vraiment le symbole de celui qui, au soir de sa vie, entre guillemets, il a un peu loupé sa vie, mais Dieu lui dit, en fait, tu peux commencer quelque chose. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Donc jusqu'au terme de notre vie, eh bien, on peut on peut laisser Dieu nous réajuster pour être saint. Après, c'est toujours plus compliqué. Enfin, c'est évidemment.
Il faut lui laisser les portes ouvertes quand même pour que Dieu puisse agir en nous. Et d'une certaine manière, on peut aussi refuser ce qu'on comprend de Dieu ou ne pas être suffisamment sensible, sans refuser d'ailleurs, mais pas être suffisamment sensible pour comprendre ou pour savoir que c'est Dieu qui agit. N'a pas, disons, cette forme de sensibilité. Oui, Catherine.
Oui, je voulais dire, comment vous savez, vous, que c'est vraiment une intervention divine ou pas? Parce que moi, je suis croyante et j'ai tendance vraiment à croire que c'est une intervention divine quand j'ai eu des problèmes dans ma vie ou des choses difficiles. Mais parfois, pas toujours. Mais vous êtes convaincu tout le temps, absolument, que c'est l'intervention de Dieu.
Non, enfin, c'est là que, comme la question des signes de Dieu, c'est qu'on ne sait pas.
Oui.
Ou alors on sait après coup, mais c'est un peu au soir de notre vie, hein, au jugement dernier. Quand le monde se terminera, qu'on comprendra, eh bien exactement, c'est ce qui était vraiment parole de Dieu, ce qui n'était pas. On peut pas trop savoir. Hein, Dieu signe pas, voyez. Comme je disais au début de l'émission, c'est nous qui reconnaissons. Vous voyez, nous qui reconnaissons...
Il faut faire attention aussi de ne pas être branché sur les signes. Hein, Jésus disait ça, pour les Juifs, on attend des signes. Des signes de la grâce. Il ne faudrait pas se lever le matin en disant « Tiens, qu'est-ce que Dieu va faire pour moi ? Je choisis un vêtement, c'est Dieu qui choisit. Je vais au supermarché, il y a des petits pois, c'est Dieu qui choisit parce que c'est la promo. » Il ne faut peut-être pas guetter trop les signes de la grâce ou être dans la surinterprétation.
Pas être dans la surinterprétation. Alors, d'abord, Dieu parle pas que par des signes, au sens... mais ça peut être... il y a une manière chrétienne de faire les courses, moi, je crois.
Ah, alors comment ?
C'est-à-dire que je fais attention, je suis pas dans la précipitation,
c'est de choisir des produits plutôt bio, si je peux.
Oui, enfin, il n'y a pas de, j'ai aucune règle, mais, vous voyez, Dieu nous parle à travers des
actes.
Des sensations.
Ouais.
Oui, allô?
Oui, Catherine, oui, Catherine, dites-nous.
Je voulais rajouter, par exemple, admettons, supposons, qu'on passe, je vais faire Ahmed. Hein.
Ah non. Ahmed sera Ahmed lui-même. Hein.
Admettons qu'on passe n'importe quoi, puis on se dit, toute manière, Dieu va intervenir, va me sauver, quoi. Donc, va m'aider, va me... Et puis, c'est pas grave, je fais ce que bon me chante, n'importe comment, mais de toute manière, je crois toujours que Dieu ou un ange gardien, une intervention divine, disons, va intervenir.
Oui.
Alors...
Oui, la question, c'est ce que je peux faire finalement, ce que je veux, si Dieu m'aime, bon, c'est la question du péché. Si Dieu m'aime, je peux faire ce que je veux, je serai quand même sauvé à la fin, si tu m'aimes tellement.
Dieu va me protéger, en fait.
Il y a certains qui ont un peu cette certitude-là, hein, qui est pas forcément fausse, d'ailleurs. Une sorte de certitude qu'ils sont protégés, qu'ils peuvent un peu faire les 400 coups de toute manière, aller en montagne, faire des ascensions
c'est vrai.
Ils sentent au fond d'eux qu'ils sont tenus par Dieu. Ça peut être possible, hein.
Ouais.
Alors, après... la question, c'est pas simplement de rester en vie, hein. La question, c'est d'être un saint. Alors, comment on devient saint? On devient saint par des habitudes. C'est-à-dire qu'il faut intégrer que tous nos actes, en fait, nous conduisent soit vers le bien, soit vers le mal. Il n'y a pas d'acte neutre.
Ah, à ce point-là.
Oui. D'accord. Alors, donc ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que quand on canonise quelqu'un, on canonise l'héroïcité des vertus.
Oui.
Et donc, les vertus, c'est quoi? C'est des habitudes pratiquées et qui deviennent, enfin, qui forment un pli dans ma vie. Si je prie tous les matins, un temps, 20 minutes, une demi-heure, eh bien, à un moment donné, prier va devenir simple.
Mais si ma vocation, c'est de jouer au football, je joue tous les jours. C'est pas un acte particulièrement religieux.
Non, c'est pas. Mais si vous voulez, c'est un acte.
Je suis mécanicien auto, je sais pas quoi.
Oui, non, mais c'est très,
c'est très louable d'ailleurs.
Oui,
mais est-ce que c'est pas vraiment un geste spirituel que de visser une roue? Enfin, prier, oui, ça c'est clair.
Oui, mais par contre, si vous
dites qu'il y a pas d'acte neutre.
Non, mais dans le sens que soit l'acte nous conduit vers la vie. Soit il nous conduit vers la mort, je sais pas comment dire.
Oui, mais... il y a une logique du vertueuse, ouais,
voilà.
Ou une logique.
Voilà, mais vous faites du sport tous les jours. Le sport c'est très bien. Jean-Paul II, il faisait du sport.
Donc Giorgio Frassati.
Mais par contre, si vous avez une famille avec 8 enfants à la maison et que tous les soirs vous faites une heure de tennis, c'est compliqué parce que vous dites. Et c'est pas sûr que votre heure de tennis, vous voyez,
oui,
ça va peut-être pas vous conduire à la vie.
Voilà.
Donc c'est ça où, voilà, tel acte dans tel contexte est bon et dans tel autre est pas bon.
Catherine, ça vous éclaire un peu?
Ça vous éclaire un peu.
Catherine, oui. Je vais devoir vous laisser car nous arrivons au deuxième moment musical de l'émission. Alors si vous voulez ajouter une toute petite chose.
Merci
Catherine, à très bientôt. À très bientôt. Et maintenant, Catherine en parlait un peu, Vox Angeli, car les anges sont la présence spirituelle et très discrète également de Dieu dans toute l'histoire du salut. Les anges dans nos campagnes, c'est un peu tôt, hein. Vox Angeli.
Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne.
La voix des anges. Et oui, nous sommes ce 24 décembre. Non, non, je plaisante, bien sûr. Nous avons pris un peu d'avance. Mais on peut écouter des jolis chants, y compris des chants de Noël, en dehors des périodes propices ou plus propices à les entendre. Sinon, on les entend qu'une fois par an. Voilà, Vox Angeli, de très belles voix d'enfants, les anges dans nos campagnes. Alors à présent, nous allons entendre Fabienne. Fabienne qui nous appelle de Vannes, en Bretagne.
Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Fabienne.
Alors Fabienne, vous avez...
Bonsoir à votre invité, pardon monsieur, j'ai oublié votre nom tellement j'étais concentrée pour essayer de vous contacter ce soir.
Voilà, mais vous avez réussi. Alors le père Paul est avec nous.
Hein, voilà.
Et on bah, vous...
voilà. Bonsoir et... père Paul. Et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices qui sont, je pense, aussi fidèles que moi. J'ai jamais osé vous appeler.
Mais, il faut oser.
Hein. Je suis fidèle. D'ailleurs, je vais dire bonsoir en particulier à des très fidèles. Ah. Je pense à Florence, Sandrine, oui. Catherine qui était juste avant moi, Ahmed,
oui.
Évidemment.
Oui, ah bah voilà. Les pèlerins voilà. De la nuit, les pèlerins en marche. Hein, c'est ça.
Voilà. C'est ça.
Alors Fabienne, vous avez un témoignage... je crois, assez bouleversant. Alors, racontez-nous un petit peu.
Eh bien, disons que oui, ça fait déjà un certain temps que j'hésitais à vous appeler, mais j'avoue que là, ce soir, le thème m'a interpellée.
Oui.
Parce que, oui, c'est vrai que en 2019, je vais vous la faire très résumée, parce qu'il y en aurait pour des heures, mm-hmm. J'étais dans un tournant de ma vie qui était devenu extrêmement compliqué. Oui. Et j'avais beau être une battante... je vous cache pas que heureusement que ma croyance m'a sauvée et parce que j'aurais mis un coup de canif dans mon contrat de vie, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
Et pour éviter ça, un matin, je suis partie très tôt prendre l'air dans un parc et j'ai profité que j'y étais seule pour m'adresser verbalement à Dieu.
Ah. Une prière, donc.
Voilà. Et c'était même pas une prière, c'était un bilan que je faisais de ma vie, un peu désespéré, et où je lui demandais un signe. J'avais vraiment besoin, là, qu'il me donne un coup de main pour continuer à avoir le courage d'aller de l'avant.
Oui.
Et il se trouve que deux jours après, alors que j'étais assise sur un banc, un corbeau vient se poser sur mes genoux. Sur mes cuisses, mais je dis, mais c'est pas possible, parce que je pense que personne n'ignore que, bon, un corbeau, on les aime, mais de loin, souvent, ils sont pas de bon augure, ils annoncent pas forcément quelque chose de positif. Mm-hmm. Mais je me suis pas plus interpellée que cela. Et deux jours après, je reviens sur ce même banc, mais pas parce que je pensais au corbeau, hein, mais le corbeau revient de nulle part et se repose sur moi.
Ah, et vous avez là, peut-être un don avec les animaux, Fabienne, non ?
Oui, non, mais là, vraiment, je vous promets, quand je suis rentrée chez moi, non pas chez moi d'ailleurs, j'étais de passage chez mon fils aîné, j'ai eu comme une boule au ventre, j'ai compris qu'il allait m'arriver quelque chose de grave.
Ah bon ?
Et je me suis dit, bon, de toute façon, je ne vais pas m'empêcher de vivre, s'il doit m'arriver quelque chose, quoi que je fasse, ça m'arrivera. Mmh. Et ben deux mois après, je vais à Nantes passer les fêtes de fin d'année.
Mmh.
Et le 3 janvier 2020, je croise malencontreusement la route d'un schizophrène. Mmh. Et vous parlez à une survivante. Mmh. J'ai été victime d'une violence extrême. Je vais vous la faire courte et pas vous donner de détails, mais quand j'étais prise en charge par le SAMU, trois chirurgiens m'attendaient. 10 heures d'opération dans 3 blocs opératoires successifs. Mmh. Et j'ai entre autres perdu la vue d'un coup de couteau dans les yeux.
Bon.
Et figurez-vous que je suis la femme la plus heureuse du monde aujourd'hui.
Alors expliquez-nous ça.
Ça paraît bizarre.
Oui, là je ne comprends pas très bien. Alors expliquez-nous.
Bah, oui, je sais que c'est incompréhensible. Ok, j'ai perdu la vue. Mais j'ai surtout failli perdre la vie ce jour-là.
Oui, oui.
Et ça peut vous paraître bizarre, mais j'ai vu là la réponse à ma prière. Et pourquoi j'ai vu la réponse à ma prière ? Parce que j'étais arrivée au bout de ma vie à un moment donné où je ne voulais pas mourir, mais j'en avais marre de côtoyer ce monde dans lequel je ne me reconnaissais plus.
Oui.
Et bien figurez-vous qu'en plus, ma vie était devenue tellement compliquée que heureusement que mon réseau amical et ma débrouillardise a fait que je n'ai jamais dormi à la rue, mais ça faisait 5 ans que je n'avais plus de toit à moi.
Ah oui, d'accord.
Et bien, depuis, j'ai un toit. J'ai eu une avocate très efficace qui fait que je ne suis plus du tout gênée financièrement au point que j'ai mes enfants. Et le moral, il est super. Je peux vous assurer que je n'ai jamais eu besoin d'aide psychologique.
Fabienne, est-ce que vous avez eu des sentiments mêlés, je dirais, après l'agression quand même, des sentiments peut-être de vengeance ou de rancune envers ce malade? Pas du tout.
Pas du tout. Et là, j'allais justement vous dire que pourtant, je vous promets que je ne comprenais pas le principe de la résilience. Et il se trouve que 2 mois avant mon agression, sur YouTube, je tombe par hasard sur une conférence sur la résilience.
La résilience, oui.
Eh bien, je vais dire, là encore, il n'y a pas de hasard, c'est pas possible. Parce que du coup, grâce à cette conférence que j'avais suivie sur la résilience 2 mois avant mon agression, eh bien, la transition, mais c'est faite. Je crois que tout mon entourage a voulu du mal à mon agresseur et j'ai dû défendre mon agresseur, quelque
ah
part.
Oui ah bon
ben,
ah bah
ben
alors
oui. Ah
ben
bah
oui.
Je vous promets, et je peux même vous dire que il a beau avoir été finalement considéré irresponsable de ses actes,
oui.
C'est un monsieur qui a quand même fait 18 mois de prison de préventive, et il est quand même passé au tribunal, même s'il a été jugé irresponsable de ses actes
oui.
Et placé sur décision judiciaire en psychiatrie, il était présent, on a même discuté lui et moi.
Ah vous avez
il a,
ah bon
il a, il a mesuré le mal qu'il m'avait fait, parce que bon, bah, il a été pris d'une bouffée hallucinogène. Il en voulait à une ex-compagne à lui, et pendant une bouffée hallucinogène, il a cru voir son ex-compagne en moi.
Ah bon?
Et voilà, toute la haine qu'il avait envers son ex, il l'a déversée sur moi.
D'accord.
Et la discussion que nous avons eue a été incroyable, au point que dans un tribunal, on n'interrompt jamais le président ou la présidente du tribunal. Eh bien, il s'est permis, ce monsieur, d'éprouver le besoin de m'adresser la parole alors qu'elle ne lui était pas donnée par la présidente du tribunal. Mais elle a même pas eu envie de l'interrompre. Elle a laissé au moins 5 minutes me parler et l'échange a été formidable.
Alors aujourd'hui, Fabienne, quelle est votre vie? Est-ce que vous avez une vie de foi? Visiblement, vous dites que c'est Dieu qui est aux commandes dans votre vie et que ce handicap vous a permis peut-être même de vous rapprocher de lui, en un certain sens. Pour vous, tout ça est providentiel.
Ah mais carrément providentiel. J'avais toujours cru en Dieu, mais j'avoue que parfois j'étais mauvaise élève, il m'arrivait d'avoir des colères.
Ouais, on est tous un peu mauvais élèves.
Voilà. Je voulais vous dire qu'à l'âge de 23 ans, j'étais très irrespectueuse envers Marie, parce que je suis allée à Lourdes, mais du haut de ma jeunesse, j'avais beau être mariée et maman de mon premier garçon, je restais quand même encore une très jeune femme, et je n'ai vu que le côté mercantilisme, qui
oui.
m'avait beaucoup choqué
oui, oui.
et je m'en suis pris à la mauvaise personne, à Marie, alors qu'évidemment elle n'était pour rien.
Bah oui, ça,
et
c'est
grâce à votre antenne d'ailleurs que j'ai découvert les beaux côtés de Lourdes.
Oui, oui, oui,
c'est
vrai.
C'est grâce à votre antenne oui, que j'ai découvert que c'est vraiment une chaîne humaine magnifique, mais j'avoue que j'étais revenue un petit peu dégoûtée à l'époque.
Est-ce que Fabienne, vous avez une question à poser au père qui est avec nous, au père Paul, sur cette action de la Providence dans votre vie qui est quand même assez extraordinaire?
Oui. Oui, je voudrais, oui, profiter d'avoir l'occasion de parler à un prêtre pour lui demander ce qu'il pense de mon expérience. Est-ce qu'il pense vraiment que j'ai raison de croire que Dieu m'a entendu ce jour-là et que c'est vraiment une providence, une réponse, parce que moi je le vis vraiment avant qu'il
comme
me réponde
ça, ouais.
comme une réponse mais sur mesure quoi.
Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Je me suis jamais sentie aussi proche de lui. Personne ne comprend que je sois aussi résiliente, personne ne comprend que je suis aussi heureuse et que je n'ai jamais eu besoin d'aide psychologique, alors que pourtant, avant que vous répondiez, mon père, oui, je suis vraiment une survivante je ne veux pas vous donner tous les détails.
Non, on veut pas les entendre.
Mais c'est déjà
suffisamment explicite, voilà. Je trouve. Comme
on le disait au début de l'émission, hein, celui qui reçoit les signes, reçoit les événements, comme vous, peut donner une parole là-dessus. Hein. Je peux donner un témoignage personnel. Moi, j'ai perdu mon frère. Enfin, mon frère est décédé à 62 ans, là, en novembre dernier. Et il disait dans une de ses dernières lettres, sa dernière lettre un peu à tous ces jeunes du scoutisme et tout ça, il disait « c'est une grâce ce qui m'est arrivé, cette maladie, mais un cancer du pancréas, mais il n'y a que lui, vous voyez, qui peut le dire ». Moi, j'avais comme question, c'est pas trop difficile dans le quotidien quand quand on a perdu la vue, on est extrêmement dépendant des personnes pour manger, pour se promener, tout ça, non?
C'est ça qui est incroyable. J'ai tellement mesuré immédiatement que j'étais devenue non-voyante, hein, à l'instant T où j'ai perdu la vue. J'ai compris quand il m'a porté les coups qui m'ont fait perdre la vue, j'ai compris que j'avais perdu la vue, mais la transition s'est faite incroyablement, avec beaucoup de naturel. Bon, je vous dirais pas que je suis aussi douée que les non-voyants qui le sont depuis des années, hein, mais je suis extrêmement débrouillarde. J'ai une auxiliaire de vie une matinée par semaine et un auxiliaire de vie un après-midi dans la semaine aussi. Tous les autres jours de la semaine, je me débrouille toute seule. D'ailleurs, il y avait eu une expertise des assureurs chez moi. Ils n'en revenaient pas de comment je me débrouillais. Il n'y a qu'une chose que je suis incapable de faire pour le moment, c'est de me résoudre à faire appel à un ergothérapeute pour apprendre avec la canne blanche à sortir toute seule. J'ai peur, par contre, du monde extérieur aujourd'hui.
Oui, ça, je peux bien comprendre. Est-ce que vous prenez des cours de braille, par exemple, Fabienne, pour lire?
Non, parce que j'avoue que un peu la flemme. Ça me ferait arriver jeune.
Oui.
Ça me ferait arriver jeune, oui.
Oui.
J'ai envie de dire aujourd'hui, vive Alexa, vive la technologie.
Oui, c'est vrai. Il y a aussi la technologie. Voilà. D'accord.
Vive les livres audio, vive tout ça, parce que du coup, ça m'aide énormément. Mais je reconnais que si ça m'était arrivé jeune, oui, je pense que je me serais intéressée au braille. Mais aujourd'hui, voilà, je suis une femme de 59 ans. Ça m'est arrivé, j'en avais 54.
Oui.
Donc j'ai vu la plupart du temps dans ma vie. Donc non, j'ai pas eu envie de me mettre au braille.
Eh bien écoutez, sur Radio Notre-Dame, on essaiera, notamment au moment de Noël, de vous donner des œuvres littéraires qu'on enregistrera sans doute par le biais des équipes. Notre cher Jean-Paul qui est là, par exemple, prêtera sa voix et beaucoup d'autres d'ailleurs aussi, pour que vous puissiez bénéficier d'œuvres littéraires. Voilà, parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter des livres audio, donc on fera une petite sélection,
voilà.
On essaiera de vous offrir
plus,
ça.
J'étais vraiment une lectrice. Moi, j'adorais aller dans les librairies, dans les bibliothèques. C'était un bonheur pour moi, je passais des heures à choisir le prochain livre que j'allais lire. J'avoue que, par contre, le fait de plus pouvoir avoir l'appréciation de lire de mes propres yeux, ça, c'est vrai que c'est un regret quand même.
Oui. C'est vrai, mais en tout cas, je trouve que votre témoignage est formidable. Il doit donner beaucoup de force, d'énergie et d'espoir à ceux qui nous écoutent ce soir, Fabienne.
Merci beaucoup.
Oui.
En tout cas, c'était le but. Et sachez que ça fait vraiment longtemps que je vous écoute, même si je n'avais jamais osé appeler. Et je resterai une fidèle auditrice.
N'hésitez pas à rappeler, Fabienne, dès que vous en avez envie, car comme tous les pèlerins de la nuit, vous êtes ici chez vous. Sur cette antenne.
Et j'ai toujours beaucoup de plaisir à entendre les fidèles qui appellent tout le temps, comme ceux que j'ai donnés tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Vous formez une petite communauté radiophonique et c'est bien le sens de notre émission. Merci Fabienne. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne continuation et je reprends l'écoute à la radio.
Merci. Et bien, on va demander à tous nos fidèles auditeurs de prier pour Fabienne. C'est une façon, on parlait de la Providence. Celui qui reçoit parfois des coups dans sa vie peut les lire avec les lunettes ajustées de Dieu sur lui. Ça peut nous paraître étonnant, nous qui ne vivons pas la même chose, mais là on voit l'action de la grâce, mon père.
Voilà, c'est... Alors, il y a tout un livre là-dessus, hein, dans la Bible, qui s'appelle l'histoire de Joseph. dans l'Ancien Testament.
Oui, bien sûr, bien sûr.
C'est l'homme qui est mis dans le puits et qui, grâce à ça, va sauver à la fois l'Égypte et Israël.
Pardonner à ses frères.
Voilà, en pardonnant à ses frères. C'est comment un mal devient un bien en fait, pour tous.
Formidable. Formidable. On se retrouve après une courte pause. Bonsoir, et voilà, la pause a été courte. Avez-vous confiance en la Providence? C'est la question que nous vous posons ce soir. Pour nous joindre, composez le 01 56 56 44 00. Le Père Paul est avec nous pour répondre à vos questions. Nous remercions bien sûr Fabienne qui a livré un témoignage absolument bouleversant sur l'action de Dieu dans sa vie et sur cette Providence qui ne cesse de nous étonner. À présent, nous allons écouter Billy Preston. Billy Preston, vous vous en souvenez peut-être, sur le toit d'Abbey Road avec les Beatles, il les accompagnait au clavier quelques années plus tard dans un hommage à George Harrison. Vous reconnaîtrez peut-être Eric Clapton à la guitare. Eh bien, Billy Preston chante My Sweet Lord au clavier. My Sweet Lord, Billy Preston.
Lord, hallelujah,
oh my Lord,
hallelujah,
My Sweet Lord, interprété par Billy Preston. Vous aurez reconnu le génie de George Harrison dans cette version live, Eric Clapton à la guitare. Ils étaient très amis tous les deux, vous le savez. Et puis, il faut redire que George Harrison, par le biais de l'Inde, a redécouvert la foi de son enfance. Alors, il a été baigné par cet hindouisme, mais Dieu, pour lui, était une idée un peu vague, et Dieu est revenu dans sa vie par ce biais-là. Et puis ensuite, il a fait son chemin, je dirais. Puis, il est retourné aussi un peu à la foi de son enfance. Nous avons à présent Norma au téléphone qui nous appelle de Sully-sur-Loire. Norma.
Bonsoir.
Bonsoir, Norma.
Bonsoir, Norma.
Alors, nous vous écoutons, Norma. Dites-nous.
Je vous appelle pour savoir si d'écouter son cœur, c'est la providence, c'est le signe de la providence, et si vaut mieux écouter son cœur ou vaut mieux écouter un prêtre ou un moine.
Ah, c'est peut-être pas antinomique, vous me direz, mais on va laisser le père.
C'est antinomique.
On va laisser le père Paul vous répondre.
En fait, c'est très bien d'écouter un moine ou... Mais même un moine...
Ou un prêtre, hein, père Paul, on peut le dire.
En fait, c'est pas lui... Dans l'accompagnement spirituel, c'est pas à l'autre de me dire ce que je dois faire. Donc ça, c'est très important. Hein. Le moine ou le prêtre, l'accompagnateur, il est là pour poser des questions. Est-ce que vous avez pensé à ça, à ça? Mais il n'est pas là pour nous dire ce que Dieu veut pour nous. Hein. Donc ça, c'est très important, hein. Après, c'est nous seuls qui prenons la responsabilité, de notre vie, de nos choix, etc. Donc, quelqu'un n'a pas décidé à notre place. C'est vraiment très important. Souvent, on peut se décharger. Moi, j'ai des gens un peu comme des enfants. Hein. Mon père, qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi. Et je leur dis non. Alors, je les aide à discerner.
Mais comme ça, justement, alors que Dieu m'avait demandé quelque chose, j'ai refusé. Et maintenant, je me trouve dans une impasse. Et justement, je me demandais si, au bout de l'impasse, est-ce qu'il y a encore un chemin ou est-ce que finalement, après, c'est le risque de l'enfer, si vraiment on a été trop loin, quoi.
Bah, vous pouvez peut-être lui dire oui maintenant, non, Norma, déjà. Oui. Recommencer par le dire oui, ce serait peut-être pas mal.
C'est plus simple, mais c'est le plus simple à dire. Oui. Mais à faire, je peux vous assurer que c'est très dur pour moi.
Oui, j'imagine bien. J'imagine bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui, effectivement, se sent un petit peu bloqué? Alors là, c'est l'accompagnement spirituel qui va essayer de le remettre en route, quoi.
Oui, des fois, les situations les plus bloquantes, on le voit dans la vie des saints, nous amènent à une plus grande humilité. Voyez, vous allez pas... Alors, vous avez une Léonie Martin, c'est un très bon exemple, qui a fait 4 essais de vie religieuse, c'est la fille hyper cabossée, etc. Il y a la petite voix de Thérèse, et il y a la petite voix de Léonie, vous voyez. Là, ça vaut le coup, là, par contre, c'est vrai, de parler de sa vie à quelqu'un.
Excusez-moi, je vous coupe, mais j'avais une grande mission, j'ai échoué. Est-ce que de revenir à quelque chose de petit, c'est quelque chose qui me sera à côté de la plaque ou est-ce que c'est quelque chose qui me portera vers plus grand?
Si vous le faites dans l'amour, je pense que c'est Thérèse qui disait ça. Si vous ramassez une épingle et que vous le faites avec beaucoup d'amour, c'est une grâce de Dieu et c'est un acte pour Dieu. Alors je pense que Norma, il faut vous remettre sur le chemin.
Est-ce qu'on a fait beaucoup de mal avant?
Oui. Enfin, je ne veux pas répondre pour le père. Alors, je vais laisser la parole au père.
Non, mais après, c'est un peu délicat. Oui, c'est ça. Puis à l'antenne de...
Oui.
La petite Thérèse disait, si j'avais commis tous les crimes, ça ne serait qu'une goutte d'eau dans un brasier. Uh-huh. Alors, elle dit tous les crimes, c'est tous. Hein. Donc, je crois qu'il faut prendre vraiment au sérieux ces phrases. Après, c'est sûr qu'il y a des choix qui nous condamnent, mais ne nous permettent plus... moi j'ai pas appris le tennis petit. Je commence à avoir un peu de poids, tout ça. Ouais. Là, bon.
Ça va pas être Joko tout de suite.
Maintenant c'est un peu fini. Bon, il y a des langues, il y a des gens, ils ont appris 5-6 langues petits. Bon, à partir d'un certain âge, c'est plus compliqué.
Si ça nous fait plaisir de nous lancer dans le tennis et qu'on est un peu âgé, ou dans l'apprentissage du chinois alors qu'on n'est pas très bon dans les langues,
mais que ça nous fait plaisir et que ça nous porte, c'est pas mal.
Ah bah ça ouais. Mais si on n'a jamais pratiqué, on aura moins le désir. Ouais, c'est ça aussi.
Ah oui, c'est ouais. Ça aussi.
Hein, c'est parce assez que, curieux.
Très ouais. Franchement, j'étais faite pour aller partir en Afrique faire de l'humanitaire. J'ai loupé le coche. Et maintenant, je voudrais m'occuper de personnes âgées, aller visiter des EHPAD, des choses comme ça. Mais je me dis, c'est petit par rapport à faire de l'humanitaire en Afrique.
Oh bah pas du tout. Enfin, moi, je trouve pas.
Hein. Non, bah votre Afrique, c'est votre EHPAD d'à côté.
Oui. Oui, tout à fait.
Le démon, des fois, je dis ça, mais il nous fait désirer des projets lointains. Comme ça, on est sûr qu'on va pas les réaliser.
C'est pas faux. Des projets glorieux, immenses, qu'on ne fera jamais. Donc, comme ça, on n'est pas embêté. Et il vaut mieux commencer en bas de chez soi, ouais. Je crois, hein, Norma.
Ouais.
Ouais. Et en général, des gens qui veulent aller en Afrique, mais qui n'ont jamais été à l'EHPAD du coin,
ça marche pas bien. Mais ça marche pas bien. Il vaut mieux commencer à donner, parce que je crois que vous avez envie de donner de vous-même. Donc, je pense que vous pouvez.
J'ai envie de donner, mais
Allez-y.
Je suis complètement inerte. Parce que même si mon maître spirituel me conseille justement d'aller en EHPAD,
ouais.
je ferme les quatre fers parce que j'ai peur. Je me dis, mais j'ai pas fait ce que Dieu m'a demandé. Est-ce que c'est rattrapable?
Norma, je pense que Dieu ne cessera jamais de vous demander des choses. Voilà.
D'accord.
Donc, je pense qu'il faut y aller. Si vous sentez un besoin d'aider votre prochain, allez-y. Ouais. Ça fait toujours un peu peur, c'est normal, c'est pas complètement naturel. Mais au bout d'un moment, vous verrez si vous êtes à l'aise ou pas. Si c'est pas votre public, et ben peut-être que vous aiderez des enfants, peut-être que vous aiderez des handicapés, c'est pas grave. Mais au moins, vous essayez de faire quelque chose. Et comme disait le père tout à l'heure, vous êtes en mouvement à ce moment-là. Et donc, il peut rien vous arriver de fâcheux. Donc, il faut y aller. Et puis l'Afrique, vous verrez plus tard.
Je suis trop vieille déjà.
Vous verrez plus tard. Mais vous savez, grâce à la mondialisation, on a beaucoup d'amis africains en France, donc tout est possible. Tout est possible pour rencontrer des cultures et voilà. Il n'y a pas de problème.
D'accord.
Voilà, Norma.
Bon, ben, je remercie beaucoup.
Mais je vous en prie.
Bonne soirée.
À très bientôt sur notre antenne.
Et moi, les prêtres.
Et ben voilà, il vous entend, le père Paul, hein, il vous entend. Voilà.
Merci, Norma.
Merci bien, Norma. Alors, maintenant, au revoir. Nous allons avoir Ahmed au téléphone. Ahmed.
Oui, bonsoir Frédéric.
Bonsoir Ahmed.
Bonsoir Père Paul.
Oui.
Bonsoir Ahmed.
Alors, moi je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que la Providence.
Alors, vous n'avez pas écouté le début de l'émission, Ahmed.
Non, j'ai pris en cours.
Et voilà, c'est très mal. Encore une fois.
Excusez-moi.
Mauvais élève. Alors,
je suis un
mauvais élève. Alors, le Père Paul va vous resituer un peu la teneur des conversations, et peut-être nous dire un petit texte sur ce qu'est la Providence. Le catéchisme de l'Église catholique dit que finalement, c'est la conduite de Dieu sur nous-mêmes, par l'amour et sa grâce, par sa générosité, et qui cherche à nous conduire vers lui, nous ramener à lui.
J'aime bien cette citation, c'est au numéro 313 du catéchisme,
oui.
Où il reprend Romains 8, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Le témoignage des saints ne cesse de confirmer cette vérité. Et le catéchisme cite saint Thomas More, peu avant son martyr. Qu'est-ce qu'il dit à sa fille ? « Rien ne peut arriver que Dieu ne l'ait voulu. Or, tout ce qu'il veut, si mauvais que cela puisse nous paraître, est cependant ce qu'il y a de meilleur pour nous. » C'est dans le catéchisme, hein, ça. Hein.
Oui,
quand même.
Extraordinaire.
Et donc, il va passer à l'échafaud, hein, le gars.
Hein. Oui, le gars a été assassiné par Henri VIII après. Voilà, hein, ouais. Ouais.
Rien ne peut arriver que Dieu ne l'ait voulu. Or, tout ce qu'il veut, si mauvais que cela puisse nous paraître, est cependant ce qu'il y a de meilleur pour nous.
C'est difficile à comprendre, ça.
Alors, Ahmed, ça veut dire que Dieu est à l'œuvre, que tout est dans la main de Dieu. Et quelles que soient les situations de nos vies... on peut les lire avec les lunettes divines. Voilà.
Alors moi, je suis un peu perplexe, excusez-moi, d'être insolent comme d'habitude. Hein.
Oui, j'ai l'habitude.
Voilà.
Et en plus, vous n'écoutez même pas le début de l'émission. Alors franchement,
là.
Bon,
là,
enfin, passons.
Désolé,
oui, voilà. C'est pas grave. Alors, passons.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens, lorsqu'ils sont dans des situations vraiment très très difficiles, vraiment le plus difficile, d'ailleurs, ne sont pas égaux devant les difficultés déjà.
Non, bien sûr.
Et les personnes qui finissent par se suicider.
Ah.
Alors, la Providence, elle les a oubliées, là.
Pas vraiment. Enfin, je vais laisser le père Paul répondre, mais il y a un épisode célèbre, Ahmed, que vous connaissez sûrement. Judas, qui a trahi Jésus, ne croit plus, je pense, à la Providence et à la grâce, et donc se suicide. Pierre, qui lui aussi trahit Jésus, ne se suicide pas et devient le premier pape de l'histoire. Deux trahisons, deux manières de réagir un peu différentes. Alors, Père Paul.
Mais, enfin.
La question du suicide, est-ce que...
La question du suicide, après, on... C'est pas parce que Dieu nous accompagne que on est comme un petit chien en laisse et on est obligé de on fait ce qu'on veut de sa vie, enfin c'est important.
La liberté.
La liberté, je peux me donner la mort, je peux
Mais la peine quand la peine dépasse notre nos forces.
Oui.
Donc la providence où est-elle à ce moment-là?
Alors, est-ce qu'il faut s'adresser à Dieu quand ça va très très mal? Je pense qu'il faut pas rester seul, déjà. Il faut s'adresser à Dieu. Est-ce qu'il y a quelques petites clés, quand même, pour ne pas se laisser enfermer par un chagrin trop lourd?
Voilà. Non, mais il faut, c'est bien facile à dire. Il y a des gens qui sont dans des situations
terribles.
Qui demandent la mort, et puis, ou alors qui se suicident.
Bien sûr, Ahmed.
Et là, à ce moment-là, c'est une catastrophe humaine.
Ouais.
Donc sa providence, il l'a mis de côté à ce moment-là, non?
Alors réponse du Père Paul. C'est pas une question facile. Hein. Je suis un peu méchant parce que je le laisse répondre quand je n'ai rien à dire. Voilà. Non. Alors Père Paul, non, effectivement, ça pose la question de est-ce que Dieu se cache? Est-ce qu'il est trop discret? Est-ce que bon?
C'est pas évident. La petite Thérèse disait ne mettez pas des médicaments à côté des malades. Je veux dire, elle avait ce désir de suicide aussi. Hein. C'est très important. Hein, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus.
On l'oublie un peu.
Après, ces situations limites. Moi, je crois beaucoup. Hein, ça va toucher la question de l'euthanasie derrière. Il y a quand même. Alors, par rapport à la souffrance, hein, on peut dire aujourd'hui normalement quand même. Que la souffrance, avec tous les moyens qu'on a, peut être atténuée quand même.
Oui, oui, ça, hein? C'est vrai.
Donc les gens qui passent à l'acte, ce sont des incroyants?
Non, c'est pas.
Absolument. Ils sont dépassés par la. Je sais pas si c'est par le diable, peut-être, je sais pas.
Non, mais genre, je pense qu'il faut pas juger les actes avec trop de dureté, hein, déjà pour commencer.
Non, j'essaie de comprendre, je juge pas, mais.
Il suffit.
La providence, elle a pas fait son œuvre.
Non, mais la providence, c'est, je veux dire, il faut qu'on arrive à rester en contact avec Dieu. Le problème du suicide, c'est qu'à un moment donné, je ne peux plus réfléchir, je ne veux plus aussi.
J'ai coupé le lien.
C'est pas normal. C'est pas normal.
Donc la providence fonctionne entre guillemets si on crie. Le Christ sur la croix dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Eh oui.
Donc il s'adresse encore à Dieu.
Donc il y a des limites à la providence ou pas?
Il y a des limites, c'est-à-dire qu'il y a des « Je peux ne plus désirer être en contact avec Dieu ». Ça, c'est possible.
Ça, c'est possible. Ah. C'est la liberté de l'homme, ça.
Mais même Judas, si vous voulez, Judas, je m'excuse, mais Judas, il va rencontrer les prêtres.
Oui.
Et il leur dit, j'ai de l'argent, reprenez cet argent.
Oui.
Ça veut dire
à changer quelque chose.
Il regrette son geste.
Ouais, excusez-moi, Père. Je crois que n'importe quel humain sur Terre, s'il était sur la croix, il implorerait Dieu, mais si Dieu ne lui répond pas, il serait en colère.
Il s'envoie en l'air.
Non, il sera en colère.
Il sera en colère.
Il peut pas décoller parce qu'il est clouté dans ça. Voilà. Mais il serait.
Ouais. Voyez-vous, il y a quelque chose qui est contre nature, lorsqu'on a une souffrance, que ce soit de l'esprit ou physique, insupportable, Dieu, quelque part, il est perdu, il est parti, il n'est plus là.
Il y a une réaction de foi, peut-être, Ahmed, quand vous dites qu'on peut se mettre en colère contre Dieu. Il y a un livre dans la Bible qui s'appelle les Psaumes, où dans ce livre-là, il y a un certain nombre de poèmes, 150, mais dans ces poèmes-là, il y a des colères explicites contre Dieu. Mais être en colère contre Dieu, c'est encore croire que Dieu existe.
Vous voyez,
sur la croix, il y a quand même deux larrons qui réagissent totalement différents l'un de l'autre. Hein. Pourtant, les deux sont crucifiés.
Mais la providence, elle agit pas chez tout le monde quand même.
Non, la providence, elle agit parce que, enfin, Dieu tient chaque personne dans l'existence, Dieu accompagne chacun, mais faut vouloir être accompagné. Et je peux refuser cet accompagnement.
pensez-vous que quelqu'un qui souffre refuse Dieu ?
Non, c'est pas le fait qu'il refuse. C'est, dans la souffrance, je peux demander l'aide de Dieu ou je peux refuser, enfin, l'aide de Dieu, des autres, etc.
Oui,
je, autres,
oui.
Et parfois, la souffrance, je comprends, elle est tellement forte que, enfin, on est dans cette nuit et justement, cette nuit, elle me coupe aussi du désir de m'approcher de Dieu.
En tout cas, je vous remercie beaucoup.
Ahmed, est-ce que vous avez entendu le témoignage de Fabienne juste avant vous ?
Non.
Alors,
non, j'étais au téléphone,
au vous réécouterez sur YouTube, c'est un témoignage magnifique d'une femme qui a peut-être 60 ans maintenant, qui a été agressée par un type qui était voilà, déficient
oui, oui.
mentalement, et ce type l'a blessée, et malheureusement, elle a perdu la vue. Et depuis ce moment, elle rend grâce à Dieu parce qu'elle a découvert l'action de Dieu dans sa vie. Elle était très malheureuse et elle n'a jamais été aussi heureuse de sa vie. Alors je ne dis pas évidemment que c'est le fait d'avoir perdu la vie qui l'a rendue heureuse, mais elle a relu toute cette séquence douloureuse de sa vie sous le regard de Dieu et elle n'a jamais été aussi heureuse. C'est un très beau témoignage, si vous pouvez le réécouter.
Tant mieux,
Amen.
Ouais. Tant mieux, mais ce n'est pas le cas de
tous. Ah bien sûr que non, bien sûr que non.
Donc dans ces histoires de vous savez, c'est comme tous ceux qui jouent au loto, ils ne gagnent pas tous, hein.
Alors, Ahmed, il faut jouer de nouveau. Non, bien sûr, bien sûr.
Ça serait la providence de gagner au loto, vous croyez ?
Bah, ça dépend ce qu'on fait de son argent ensuite. Si on s'achète une grosse Ferrari et puis une dizaine de Ferrari pour soi tout seul, c'est pas très intéressant. Si on sauve des vies, ça devient peut-être quelque chose de divin.
Bon, bah écoutez, ben, je vous remercie.
Merci Ahmed.
Merci, Ahmed.
Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Alors, une petite question de Fabrice. Comment faire pour goûter les fruits de la Providence et comment les faire partager au plus grand nombre ? Alors, imaginons qu'on vive de cette providence que certains reçoivent, connaissent, comprennent. Et si c'est le cas, comment faire pour la partager avec les autres ? Comme avec Ahmed, par exemple.
Partager, c'est le témoignage. Après, c'est de dire l'action de Dieu dans notre vie, ce qu'on a repéré comme action. Après, un témoignage, ça reste un témoignage. C'est-à-dire que je peux croire ou ne pas croire. Mais après, c'est notre rayonnement, c'est notre joie. Vous voyez, le témoignage de Fabienne, c'est un bon exemple.
Alors, sur le grand nombre, sur la providence qui conduit toutes choses, on parlait de la terre, on regarde les conflits.
Ouais.
En ce moment, Gaza, bien sûr, l'Ukraine. Bon, on se dit, Dieu pourrait intervenir, frapper un peu du poing sur la table et remettre les compteurs à zéro. Il ne le fait pas encore.
Ben oui, c'est-à-dire qu'on préférait ne pas avoir de liberté, on préférait que Dieu, un peu comme une cour de récréation, il dit « allez, on arrête les enfants
bon. ». Siffle un peu, voilà. C'est la fin.
Dieu nous laisse libres et c'est ce qui conduit aussi à refuser Dieu, hein. C'est ça, c'est le problème de cette liberté. Hein. La croix, comme la souffrance, hein, la croix est à la fois un signe et en même temps un contre-signe.
Alors, dites-nous,
un signe, parce que c'est un signe de l'amour de Dieu, la croix.
Oui.
C'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et en même temps, c'est ce qui bloque ma foi. C'est que si Dieu est bon, pourquoi il laisse son Fils mourir ?
Il peut intervenir, il pourra intervenir.
Il n'intervient pas.
Non.
Donc,
d'ailleurs, s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Alors, c'est compliqué. S'il intervient, il n'y a pas de résurrection.
Ben, oui, hein, puis s'il intervient, en fait, il ne descend pas dans ma douleur. Et Dieu a voulu se faire solidaire de notre épreuve, de notre douleur, pour que cette douleur soit...
Y compris la mort,
donc il a été au plus loin, pour nous dire, en fait, je t'accompagne jusque-là. Souvent, on dit, bon, alors Dieu permet la souffrance. La providence, c'est quoi ? C'est un Dieu qui permet le mal.
Oui.
Alors, permet au sens, bah, il permet, puis il regarde ce qui se passe,
quoi,
voilà.
Oui.
Non, je suis pas trop, enfin, pour moi, c'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire que Dieu nous accompagne dans le mal. Et je descends avec toi dans la vallée de la mort. Je descends avec toi, tu vois.
Pour celui qui le reçoit et pour celui qui commet l'acte aussi, certainement.
Enfin, oui. Il est à la fois des deux côtés. C'est-à-dire qu'il nous accompagne, il habite les choses. Et c'est très beau pour nous parce que nos vies sont cabossées. On avait une sœur là, plus son prénom là, qui disait qu'il voulait aller en Afrique là.
Oui, Norma.
Norma,
oui.
Qui disait mais moi finalement aujourd'hui, ben, en fait,
j'ai raté l'Afrique.
J'ai raté, mais attends, le Christ sauve le monde par un ratage. Donc, t'as raté l'Afrique, c'est pas
mal. Mais c'est pas grave, c'est pas grave d'avoir raté l'Afrique.
Simplement, faut savoir bien rater. C'est-à-dire vivre son ratage correctement.
Oui. Tu vois, on peut se dire qu'un ratage, finalement, c'est un apprentissage. On rate jamais, on progresse, on apprend.
On grandit en humilité, on voit une autre issue, etc. À l'inverse du remords, on se mord à nouveau. Et c'est ça le démon. Hein. Le démon, il veut nous faire louper les choses et en plus nous faire désespérer.
Est-ce que finalement, l'échec, c'est pas un peu la norme? Et puis la réussite, l'exception?
Ben, l'échec, ça dépend. Enfin,
dépend comment on voit l'échec.
En entreprise, aux États-Unis, en fait, on vous demande quels sont vos échecs. Parce que ça veut dire que vous avez essayé des choses.
Oui. Et donc, on les cache. C'est une autre culture. En France, on dit non, pas d'échec. Moi, non, j'en ai jamais eu.
Bon, quelqu'un qui a un échec, c'est quelqu'un qui essaye, c'est quelqu'un qui est riche d'une expérience. On est, je trouve, plus riche. Il y a plus d'expérience par rapport à nos échecs. Enfin, de choses. Quelqu'un qui réalise des choses extraordinaires, etc. Alors, quand il témoigne, il dit, bon, là, j'ai fait ça. Bon, ben, faites comme moi. C'est pas très compliqué. Ouais. Il n'y a pas forcément une grande sagesse. L'échec, j'ai essayé ça n'a pas marché. Pourquoi il y a eu ça, etc. C'est très, très riche.
Est-ce que Dieu peut nous sortir de la difficulté climatique? Est-ce qu'il conduit aussi la biosphère?
Mais Dieu
conduit... sera la dernière question.
mais là, Dieu conduit toutes choses. Mais la biosphère, enfin, je veux dire, la création, elle est aussi remise dans les mains des hommes.
Hein, encore une fois, la responsabilité humaine.
Ben oui.
Mais avec la main de Dieu qui nous tient la main pour avancer.
Ben, il nous tient la main. Mais alors, donc, la création, elle a une capacité à rebondir, etc. Bon, ça, c'est quand même extraordinaire. Mais ça nous est confié.
Faut administrer.
Ouais, voilà. On doit confier. Oui. La providence, c'est Dieu qui nous accompagne. Mais il nous laisse gérer comme une richesse. C'est-à-dire que je peux faire avec la création, avec des biens, avec ma vie, des choses très belles. Ou alors je peux dilapider les biens.
Ce sera le mot de la fin. Alors, vaut mieux faire des choses très belles. Remerciements à Denis Thomas qui a contribué à préparer cette émission, à Jean-Paul Lérine qui l'a réalisé, à nos bénévoles qui ont pris vos nombreux appels ce soir, Véronne et Henri. Pour ma part, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Demain, à ma place, ce sera Marie Léoula Koussa. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter, sous le regard de Dieu et dans sa providence, dans sa grâce, une très bonne nuit. Merci, Père Paul.
Merci,
Frédéric. D'être venu jusqu'à nous. Et puis, je vous confie à la prière de vos anges gardiens et je vous dis à la semaine prochaine.